L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Vous le savez, ou peut-être pas, j'ai construit quasiment l'intégralité de ma carrière sur le digital et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux. C'est un sujet que je connais bien, qui m'a permis vraiment de m'émanciper dans mon travail, de créer ce podcast entre autres. Et pourtant, bien que je connaisse tous les aspects positifs des réseaux sociaux, je me pose vraiment la question sur l'impact délétère, monumental qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tariq Rim pour la seconde fois. On avait déjà fait un épisode qui était le numéro 49. Pour essayer de comprendre mieux l'histoire des technologies, l'histoire d'Internet, comment tout ça s'est arrivé et l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux sur nos vies élargies, c'est-à-dire évidemment nos vies au niveau individuel, mais aussi nos vies au niveau national, voire européen. Quels sont les impacts, que ce soit des sociétés qui soient américaines, chinoises. Vous allez, je crois, adorer cette conversation qui est profonde, hyper intéressante. Tariq est extrêmement didactique, donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Tariq.
Bonjour Greg.
Je suis ravi de te recevoir une seconde fois sur ce podcast. On avait parlé la première fois de Slow Web. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, encore plus que moi, on est des enfants du Web 2.0, voire toi encore plus du Web 1.0, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a, enfin j'ai l'impression, en tout cas moi, tu vas me dire pour toi, voué les louanges du web 2.0, des réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, la situation, elle change un peu. J'aimerais bien que tu repartes de là où tu viens pour nous expliquer justement ton cheminement de pensée ensuite.
Ah, waouh! Moi, en fait, pour être tout à fait transparent, je suis un véritable dinosaure parce que j'ai eu la chance, grâce à mon père qui avait une fac extrêmement connectée, d'avoir fait ma première connexion au réseau en 1982. Donc, ça va bientôt faire, l'année prochaine, ça va faire 40 ans. Ça fait très, très long. Et donc, j'ai suivi plein d'époques différentes. Il y a eu l'époque des BBS, donc ces fameux serveurs où on mettait son ordinateur, on le connectait et d'autres personnes pouvaient se connecter, on créait ce qu'on appelait des communautés en ligne. Évidemment, le Minitel, qui a été le modem gratuit dont on s'est tous servi pour faire plein de choses. Et puis, le web 1.0, évidemment, avec la... C'est très drôle parce que à l'époque des années 90, le gros sujet, et à l'époque, j'ai travaillé pour Radio Nova et j'étais complètement à fond là-dedans, c'était ce qu'on appelait la cyberculture et notamment la réalité virtuelle. Donc, en fait, l'ancêtre du fameux métaverse. Et puis, effectivement, entre ça, un premier crash en 1999, on a essayé de relancer le web une deuxième fois avec ce qu'on a appelé le web 2.0. Et puis, effectivement, avec NetVibes, entre autres, on a été un peu au cœur de cette révolution. Et ça n'a pas... Enfin, ça a bien marché, mais en fait, rapidement, l'Internet a été consolidé, notamment, je pense, à cause de l'iPhone, qui a concentré les pouvoirs de l'Internet en un petit nombre de mains. En gros, chaque icône de l'iPhone, c'était 1 milliard d'utilisateurs. Et il y a des boîtes nouvelles qui se sont construites, hein, ce qu'on a appelé aux États-Unis les licornes, pour devenir des services essentiels pour l'iPhone. Et donc, ça a totalement transformé l'Internet, qui est devenu, en fait, une sorte d'organisation de notre vie sur le téléphone. Et puis aujourd'hui, il y a une autre direction qui est prise, notamment avec le Web 3, qui à mon avis est beaucoup plus générationnelle, parce que quand on regarde, la façon dont le Web est utilisé, notamment sur le Web 3, dans ce qu'on appelle la crypto parfois, c'est aussi une façon, pour une certaine génération, la génération Z, de se dire, vous avez construit un univers qui nous convient pas. Un système financier qui finance cet univers, ce monde qui nous convient pas, on va construire notre propre utopie. Et donc, d'une certaine manière, ce qui est très intéressant, c'est que historiquement, la vision la plus crédible de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est William Gibson qui l'a écrite dans un livre culte qui s'appelle Le Neuromancien, qui a été un peu le fer de lance de ce qu'on appelait le mouvement cyberpunk. Et le problème du monde cyberpunk, c'est que c'est invendable, c'est une dystopie où les entreprises contrôlent le monde, seuls les hackers peuvent éventuellement nous sauver. Et évidemment, ça, c'était pas vendable. Et donc, dans les années 90, on a eu un changement complet sur la question du cyberespace. Et on a dit, en fait, le cyberespace, c'est cette nouvelle espace cool qui s'appelle l'Internet, dans lequel on va construire des startups. On a créé ce qu'on appelait la techno-utopie. Et puis progressivement, évidemment, cette techno-utopie, on a été beaucoup à y croire, hein, moi le premier.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'on a en fait laissé un certain nombre de monopoles se construire, bien plus puissants que ce qu'était Microsoft dans les années 80. Pour ceux qui se rappellent que Microsoft avait quasiment la domination des ordinateurs de bureau. Là, on a 5-6 sociétés, si on en prend une chinoise, qui ont la domination totale de nos vies numériques. Et ça, c'est effectivement un problème.
Et en fait, juste pour rappel, que tu ne le dis pas de manière assez humble, mais en fait, tu étais un des plus grands entrepreneurs français à ce moment-là, parce que NetVibe, ça a été un succès mondial. Et pour ceux qui ne connaissent pas, forcément, c'est qui n'étaient pas là, en fait, tout simplement, à ce moment-là. Ça a été vraiment une révolution. Et donc, tu as suivi de près, et donc, tu es extrêmement proche aussi de tout ce qui construit. Enfin, toutes les personnes qui ont construit ce web dont on parle, que ce soit Marissa Mayer, etc. Donc, tu connais beaucoup, beaucoup de gens. T'as vraiment été au cœur, je pense, de ce web réinventé, le web 2, donc le web social.
Absolument. C'était drôle parce qu'en fait, on a eu... la première fois que j'ai rencontré Mark Zuckerberg, c'était à cette époque, 2005-2006. La première fois qu'on se voit, en fait, il m'a montré sa page. Il était utilisateur, Kevin Rose. On avait une chance, c'est qu'on avait un produit assez simple. Et ce qui était fascinant, d'ailleurs, à l'époque, c'est qu'on était dans une forme d'écosystème. D'ailleurs, on avait appelé notre plateforme à l'époque écosystème. C'était pas un terme trop utilisé à l'époque, en se disant que ce qu'on faisait, on faisait une des briques, quelqu'un d'autre faisait une autre brique, et en fait, on s'interconnectait et tous ensemble, on construisait quelque chose de nouveau. Là, on est dans un monde vraiment différent, c'est qu'on a quelques sociétés qui disent « nous, on fait tout, c'est nous qui faisons votre mail, c'est nous qui faisons votre vidéo, vos chats, c'est nous qui allons analyser votre santé, c'est nous qui allons faire ci et ça et ça ». Et en fait, à la fin, on n'a plus véritablement de diversité culturelle, parce que je crois beaucoup que l'Internet est quelque chose d'intimement culturel, mais une vision très homogène où… pendant des années, quand tu prends par exemple Gmail, c'est pensé uniquement pour la productivité. Maintenant, ils ont rajouté les outils de visioconférence, parce qu'évidemment, avec la pandémie. Et on est toujours dans la logique de la productivité, comment faire plus. Et d'une certaine manière, au moment où on a besoin de résilience et d'une certaine, de retrouver son intimité propre, on est face à des outils qui nous ont, qui extraient de notre cerveau les données et surtout qui extraient notre énergie vitale.
Alors, avant d'aller là, parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur Facebook et donc la galaxie de Facebook, donc de Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp. Il y a eu pas mal. Donc moi, en tout cas, j'ai été un fervent défenseur pendant des années, avec quand même, tu vois, une prise de conscience. Tu vois, typiquement quand les pages de fans sont arrivées, ou tu vois, bien sûr, on a vu les algorithmes et ce que ça pouvait avoir comme impact. Est-ce que tu pourrais revenir sur les différents problèmes que Facebook amène. Là, je focus sur Facebook parce que, et après, on ira sur d'autres plateformes, typiquement Google, et puis Twitter et sans doute les autres. Mais j'aimerais bien commencer par Facebook parce que c'est quand même, enfin Meta du coup maintenant, c'est quand même des outils qu'on utilise au quotidien, pas tant Facebook qu'Instagram, mais pour ceux qui nous écoutent, j'imagine, et WhatsApp, mais c'est quand même des plateformes qu'on utilise au quotidien, moi y compris évidemment.
Ben, bon, moi, je suis pas non plus l'expert de Facebook. Non, bon, mais... il se trouve que je suis toujours un peu gêné aussi parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais à titre personnel qui ont construit ça, et donc j'ai beaucoup discuté avec eux de plein de sujets. Donc il y a des choses qui restent évidemment des conversations privées. Enfin, je crois encore à cela. mais fondamentalement, que Facebook, c'est un peu la société qui a, bon, au départ, qui s'est construit comme un réseau social pour les universités. Je pense pas que Zuck avait une bonne idée à s'être entouré de gens qui avaient de très très bonnes idées, notamment le newsfeed. Mais d'une certaine manière, Facebook est une plateforme qui a dû évoluer à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour survivre. Au tout départ, il faut le rappeler, la société qui était la plus connue dans le monde des réseaux sociaux, c'était MySpace. Et MySpace avait une vision assez simple, c'est tu crées un pseudo, tu avais ta page de profil. C'était assez proche finalement de la première génération là de pages perso type GeoCities, tu sais, Lycos, tout ça, où en gros tu faisais ton truc.
Copain d'avant.
Voilà. Sauf qu'au lieu de coder toi-même ton HTML, tu avais une sorte de template et tu pouvais mettre ta musique, ton art. Enfin, c'était assez drôle. Et puis, ça a créé un style, une stylistique visuelle un peu spécifique. Et d'une certaine manière, le pionnier, le véritable pionnier qui a été l'inspirateur de Facebook s'appelle Cyworld en Corée. C'était le premier réseau social, à ma connaissance, qui proposait aux gens de s'inscrire avec leur véritable identité et donc de devenir une forme d'annuaire. Et donc, dès que Facebook a commencé à sortir des universités, hein, je crois que c'est là à peu près que chacun d'entre nous, on a commencé à vouloir avoir des invitations pour entrer sur Facebook. Très rapidement, en fait, je crois que la compréhension qu'a eu Mark est en fait quelqu'un d'assez très stratège. Hein. Son livre préféré, c'est La Stratégie Ender, qui est un livre de science-fiction remarquable qui rentre dans le cerveau d'un petit génie qui défend la planète Terre contre une invasion extraterrestre, qui est un livre incroyable parce que tu rentres dans la tête d'un génie et tu rentres dans sa façon de penser à plusieurs coups, et il te faut toujours, tu sais, plusieurs pages, plusieurs chapitres avant de comprendre les décisions. Ben là, c'est un peu la même chose avec Zuck, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours la capacité d'anticiper. Et la première des choses qu'il a compris, c'est que s'il connectait les gens viendraient que de manière parcimonieuse, puisque finalement tu viens voir les gens, tu regardes leur profil, mais bon, c'est intéressant, mais ça ne crée pas véritablement d'adhésion, ça devient une sorte de page jaune, un annuaire. Et donc le seul moyen de rendre ça plus sexy, c'était l'idée de créer un concept qui a d'ailleurs été inventé par la créatrice de Yahoo, hein, Katharina Feig, ce qu'on appelle l'activity feed sur le site Flickr, qui est un site de photos qui, je crois, existe toujours, mais bon, malheureusement plus autant qu'à l'époque. Elle avait dit telle personne a liké telle photo, telle personne a fait ça, et donc en fait on était capable de traquer l'activité d'un utilisateur. Et donc pour créer cette activity feed, il fallait évidemment construire ce qu'allait devenir un newsfeed, qui était en fait la somme des activity feeds. Et pour cela, il fallait des nouveaux contenus. Il fallait donc que les gens produisent des contenus. Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'est j'ai changé mon image de profil. Et donc, évidemment, ben, quand tu regardais tes amis, « Ah, c'est quoi sa nouvelle image de profil ?» Et au départ, les gens avaient des images de profil très corporate. En fait, c'était Facebook, c'est les photos de classe. Les gens ont commencé à se mettre en scène. Et donc, soudain, ça voulait dire que les gens commençaient à changer leurs photos plusieurs fois. Et donc, il a fallu devenir un service de photos. Et puis ensuite, on s'est dit, ben, pourquoi pas créer des photos et dire que telle personne a posté des photos. Mais en même temps, Il y avait d'autres services qui faisaient ça, mais ce qu'il a